Radio Okapi. Écho des développements.
Chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écho du développement, votre magazine de promotion des questions de l'environnement et des développements durables qui s'intéresse aujourd'hui au lancement du programme des foresteries communautaires en faveur des peuples autochtones de la RDC. Cette émission vous est présentée par Tati Mapoukou. Polydor Basunga s'occupe de la prise des sons sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros.
Radio Okapi vous propose désormais ses magazines thématiques hebdomadaires du lundi au vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Retrouvez Maïcha Bora chaque lundi, Droit et citoyenneté mardi, Parité et famille mercredi, Écho du développement jeudi, 100% jeunes vendredi à 12h30 heure de Kinshasa. Sachez également que les magazines étoiles vous est proposé désormais samedi à 19h05 et lundi à 15h30. Identité culturelle, samedi à 8h30 et dimanche à 11h05. Grande interview, samedi à 10h05 et dimanche à 9h05, heure de Kinshasa. Prenez également rendez-vous avec les magazines des Nations Unies tous les dimanches à 8h30 et 19h05, heure de Kinshasa. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bienvenue à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Des millions de personnes en Afrique dépendent directement ou indirectement de la forêt, d'où la nécessité de préserver et de gérer les zones forestières de façon durable afin de maintenir et d'améliorer leur existence. Parmi les populations dépendantes de la forêt, les peuples autochtones représentent la catégorie la plus emblématique mais aussi la plus vulnérable. En RDC, plusieurs communautés ont perdu la terre de leurs ancêtres. Cela accentue la vulnérabilité de ces communautés et alimente souvent des conflits entre les Pygmées et les Bantous dans certaines régions de la RDC. Pourquoi c'est important de sécuriser l'espace foncier des peuples autochtones? Quelles sont les avancées enregistrées sur terrain dans le cadre de la sécurisation des terres des peuples autochtones? Comment aider cette communauté à gérer durablement les forêts du bassin du Congo? De plus amples informations au cours de ces numéros d'Écho du développement qui débutent avec l'entretien que j'ai eu avec Patrick Saïdi, coordonnateur de la dynamique des groupes des peuples autochtones au DGPA en sigle, qui souligne que l'accaparement ou l'affectation des terres des peuples autochtones à d'autres activités accentue la vulnérabilité et la précarité des Pygmées dans les régions où ils vivent.
Vous comprendrez avec moi que cette situation renforce déjà la précarité des peuples autochtones pygmées, parce que le fait de ne pas avoir la possession totale sur la terre, donc ça vous limite aussi dans la jouissance des ressources qui sont sur ces espaces-là. Donc ça renforce la précarité, ça renforce aussi cet état de discrimination, parce que des fois, quand on les chasse sur leurs terres ancestrales, ils sont projetés dans des terres qui ne sont pas les leurs et l'accueil n'est pas toujours pacifique. Donc ce qui fait que ces derniers sont souvent exploités en guise d'avoir un lieu d'habitation.
Est-ce que les conflits permanents entre Bantous et Pygmées dans les Tanganyika seraient aussi liés à cette situation-là?
Donc la source de ces conflits est déjà liée à la gestion des terres. Parce que le fait que les Pygmées, quand on voit par exemple dans les Tanganyika, la communauté Lubakati dans les Tanganyika, considérait jadis dans l'état passé que les Pygmées faisaient partie de leur famille. Donc c'est des Pygmées assujettis et cet assujettissement vous prive des droits de possession. Et ce qui fait que si un Pygmée va par exemple les chasser, au retour, il doit donner les redevances coutumières, donc une partie de ses gibiers. Donc des situations qui ont fait des Pygmées tout simplement des sous-hommes. Et avec l'évolution récente qui démontre que nous sommes tous égaux, nous sommes tous des Congolais avec le même droit. Donc si cette situation n'a pas été accueillie favorablement déjà dans le Tanganyika, où on considérait un Pygmée comme un objet, on considérait un Pygmée, je dirais, comme un bien personnel qui vous appartient. Donc, je me souviens, il y a même des discours qui parlaient de l'émancipation prématurée. Donc les gens disent que c'est l'émancipation prématurée des pygmées qui est même à la base du conflit dans les Tanganyika.
Qu'est-ce que cela ça veut dire, émancipation prématurée?
Donc c'est comme quelqu'un qui dirait tu réclames tes droits au moment où tu n'es pas encore capable de réclamer les droits. Comme ce qu'on reprochait même aux Congolais dans les temps passés de dire on a réclamé l'indépendance sans avoir les capacités.
Vous n'êtes pas émancipé, vous n'êtes pas intellectuellement capable de bien gérer ce que vous réclamez.
Et ça veut dire qu'ils doivent rester dans cet état de choses jusqu'à ce qu'ils soient émancipés. Peut-être on sous-attend par là qu'ils aient des diplômes d'État, on sous-attend par là peut-être qu'ils soient dans des maisons tolées, mais ce qui n'est pas acceptable au XXIe siècle.
Mais aujourd'hui aussi, il y a des pygmées, des peuples autochtones qui ont émergé dans les études. Ils sont nombreux à être universitaires, à percer dans le domaine académique.
Mais effectivement, et c'est une façon de dire qu'on ne peut pas maintenir un peuple sous esclavage en prenant comme prétexte la non-émancipation. Parce que de toute façon, même nous, c'est qu'on ne sortirait jamais de la colonisation.
Nous devons souligner qu'il n'existe pas de recensement officiel de la population autochtone en RDC, mais la DGPA estime que la démographie de cette population s'élève à 600 ou 700 000 individus. Les peuples autochtones représentent environ 1% de la population congolaise. Ils sont implantés au sein des provinces suivantes. Équateur et Bandundu dans leurs anciennes configurations, le Nord et le Sud Kivu, la province orientale, les Katanga et les Kasaï dans leurs anciennes configurations. Pour Kapupudiwa, président du Réseau national des peuples autochtones, les Pygmées vivent dans 21 provinces. Ils ne font pas partie de ce fait de la minorité nationale.
Les peuples autochtones, comme pour aux auditeurs, nous sommes, comme on dit toujours, on nous considère comme une population minorité, mais vraiment nous sommes une population majorité. Parce que avec l'espace contenu de votre question, sur 26 provinces, nous sommes dans 21 provinces. Aucune autre tribu que vous pouvez trouver qui se retrouve dans toutes les provinces comme les peuples autochtones, 21 sur 26. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis toujours, nous ne sommes pas dans un autre monde. Nous vivons tous dans le monde qu'on appelle Terre, y compris d'autres populations. Maintenant, aujourd'hui, cette pandémie que vous-même vous avez donné le nom, que nous ne savons pas. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut demander aux peuples autochtones Corona, les uns qui disent colonel, les autres qui disent quoi. Ils ne comprennent absolument rien. Maintenant, pourquoi on a baptisé, on a dédié, on a donné le thème COVID-19 et la résilience des populations autochtones? Parce que c'est pour nous préparer. Le risque qui est là, on sait très bien que les peuples autochtones sont vulnérables. Leur vulnérabilité, une fois la pandémie entre dans le village des peuples autochtones, imaginez-vous, quand nous vivons jusqu'à présent en dessous des exigences sanitaires, nous sommes très bas, imaginez-vous, pas de dispensaire, pas d'hôpital, pas de l'eau, tout l'eau est maintenant polluée, tout ça avec des industriels. Maintenant, imaginez-vous, si une fois la pandémie entre dans les milieux autochtones, ça sera catastrophe, ça sera extermination de cette population. C'est pour cela que les Nations Unies a préféré de dire attention, c'est un son de cloche, c'est un rappel pour dire attention, COVID-19, c'est les États. Le message, ce n'est pas pour nous, les peuples autochtones. Le message, c'est pour les États qui sont membres des Nations Unies, pour leur alerte. C'est une alerte, d'ailleurs, voilà le terme. Pour dire attention avec les peuples autochtones s'ils sont là. Et il faut tout faire pour que cette population ne soit pas atteinte par cette pandémie. Il faut prendre des mesures, stratégies spécifiques pour ces peuples pour que la maladie n'atteigne pas là. C'est ainsi que nous-mêmes, nous avons pris certaines dispositions pour que on ne sent pas même l'odeur. C'est-à-dire, un, les peuples autochtones, nous sommes en train de sensibiliser nos villages pour qu'il y ait un isolement avec d'autres villages, d'autres les voisins, tout ça. Deux, qu'on met mise en quarantaine de nos populations nous-mêmes. Ceux qui sont dans des villes, qui sont allés chercher du travail ou quoi, n'entrent plus dans nos villages. Ceux qui sont dans les villages, c'est ça, quarantaine maintenant, qui ne sortent pas là-bas. Parce qu'une fois très fragile, les gestes barrières, nous ne savons pas là. Et là, pour éviter tout ça, c'est ainsi que on a dédié cette année avec ce thème-là pour alerter aux peuples autochtones, alerter surtout au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers de dire attention, mettons un accent avec cette population pour que vraiment cette maladie n'atteigne pas les peuples autochtones. Les cas fréquents, monsieur le journaliste, vous suivez à la radio. Voilà comment les peuples autochtones de l'Amérique latine sont exterminés avec la pandémie. Parce qu'il n'y a pas de disposition pratique qu'on a mis en évidence pour le protéger.
Traditionnellement, ces peuples dépendent fortement des ressources de la forêt à des fins de nutrition, de construction de l'habitat et pour des fins médicinales. Les peuples autochtones restent cependant l'une des plus marginalisées et l'une des plus pauvres de la nation congolaise. Pour assurer un développement endogène de cette communauté, le gouvernement suédois a mis en place les projets d'appui à la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones de la RDC en collaboration avec le ministère national de l'Environnement. Ces programmes visent la valorisation et la sécurisation foncière des 13 000 hectares des forêts tropicales de la RDC et l'autonomisation des femmes et des enfants dans les 5 provinces ciblées, selon Théophile Gata, directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion des forêts tropicales.
Le projet PASDEF, qui est coordonné par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, est mis en œuvre sur le terrain dans 5 provinces, à savoir le Kwilu, dans le territoire de Bulungu, le Kwango dans le territoire de Kenge, le Congo central dans le territoire de Tchela, le Maïndombe dans le territoire de Nyoki et le Sud-Ubangi dans le territoire de Libenge, par un consortium dynamique de 5 partenaires ayant une expérience sur la thématique. La mise en œuvre sur terrain est rendue possible par une subvention de 2 ans accordée par la Tenure Facility, une organisation basée à Stockholm, en Suède, et qui accorde ce genre d'appui pour garantir les droits des communautés locales et peuples autochtones sur leurs terres et leurs forêts, renforçant ainsi les communautés et réduisant les changements climatiques mondiaux et la pauvreté dans les zones forestières du monde.
Que devons-nous comprendre par les concepts foresterie communautaire ? Patrick Saïdi, coordonnateur de la DGPA, nous explique.
La foresterie communautaire, c'est une approche qui a été mise en place par les gouvernements dans le cadre du code forestier. Parce que déjà dans le code forestier, les gouvernements avaient prévu qu'un certain nombre d'espaces forestiers soient gérés par les communautés locales. Mais ce qui manquait, c'était déjà de voir comment est-ce que le gouvernement arrive à attribuer le titre de gestion de ces espaces-là. Parce que nous savons que dans le secteur forestier, les titres qu'on retrouve dans ce secteur-là, ce sont des titres pour les exploitants forestiers. Donc, ils arrivent à avoir des concessions qu'ils mettent sous exploitation pendant 25 ans. Et pour les gouvernements, enfin d'arriver à sécuriser un certain nombre d'espaces pour les communautés locales ainsi que les peuples autochtones, avaient prévu ces mécanismes qu'on appelle foresterie communautaire. Donc, en gros, la foresterie communautaire consiste à mettre en place des concessions communautaires, des concessions qui sont sous la gestion de la communauté, suivant leur mode de vie, suivant leurs coutumes. Et pour rendre cela légal, donc l'État donne un titre, donc sur base d'un arrêté donc, du gouverneur de la province, qui accorde au moins 50 000 hectares à une communauté. Donc c'est vraiment un titre perpétuel, en fait. Donc la communauté garde le titre.
Sous forme de contrat d'emphytéose.
Vraiment, c'est carrément des contrats d'emphytéose, mais tout simplement dans les secteurs forestiers.
Mais aujourd'hui, quelle est la situation en fait exacte des peuples autochtones concernant leur espace foncier à travers les pays ? Est-ce que leur espace est vraiment menacé ?
Donc l'état des lieux, d'une manière simple, c'est de dire que les espaces des peuples autochtones pygmées sont vraiment menacés dans les pays. Menacés dans un sens où il y a des espaces où ils ont été carrément expulsés. Il y a des espaces où ils ont été spoliés par d'autres communautés.
Tu peux citer quelques cas ?
Donc, par exemple, je peux parler de ces cas qui est connu de tout le monde, comme le cas du PNKB, donc le parc de Kauzibiga, où on avait mis à côté les peuples autochtones pygmées parce que c'est devenu le patrimoine mondial. Nous avons, par exemple, le parc de la Lomami actuellement, que l'État est en train de ramener aussi vers le patrimoine mondial. Et les peuples autochtones pygmées ont été mis à côté, donc dans des zones tampo. Nous avons aujourd'hui beaucoup de cas, même dans les Maïndombe, parce que nous trouvons beaucoup d'organisations qui sont en train de créer des concessions de conservation dans le cadre du changement climatique. Et avec ces concessions de conservation, la plupart des fois, donc les communautés détentaires des droits coutumiers, ils sont soit mis à l'écart, soit ils sont mis à l'écart dans la gestion des retombées de ces concessions de conservation. Donc pour le pygmée d'une manière générale, donc la situation actuelle, c'est cette situation des non-droits sur les terres et les espaces qu'ils utilisent et qu'ils occupent traditionnellement.
La foresterie communautaire doit être déployée en RDC pour améliorer les conditions de vie des communautés locales, ajoute Benjamin Troirabé, secrétaire général au ministère de l'Environnement et Développement Durable.
La RDC est aujourd'hui à un niveau où on ne peut plus douter de l'apport de la foresterie communautaire dans notre pays. Mais comme je le répète à tout moment, quand j'ai l'occasion de vous parler, la foresterie communautaire, elle est faite pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales et des peuples autochtones. Voir les choses autrement, c'est aller à la contre de la loi et de l'éthique en termes de droits humains. Distinguer, éviter. Notre gouvernement, donc le gouvernement de la RDC, par l'entremise du ministère de l'Environnement durable, et surtout à la personne de son Excellence Maître Claude Nyamugabo, tient à remercier sincèrement Tenere Facility pour son appui technique et financier à ses partenaires sous la houlette des KGDFT, et espère que ce projet va contribuer réellement à la sécurisation des droits fonciers et forestiers. Et comme je venais de le dire, contribuer aussi tant soit peu à la réduction de la pauvreté et également à la promotion de la gestion durable des forêts, des communautés locales et peuples autochtones. À cela, il n'y a pas seulement les hommes et les femmes et les enfants dans cette foresterie communautaire, mais il y a aussi des femmes qui sont très actives, qu'elles doivent avoir un soutien particulier dans le cadre de ce projet.
Radio Okapi vous propose ce programme en mode télétravail suite à l'état d'urgence sanitaire en cours. Retrouvez toutes nos émissions interactives au Okapi Service du lundi au vendredi de 10h à 12h, en rediffusion de 20h à 22h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs du lundi au vendredi de 13h à 14h, en rediffusion de 22h à 23h, heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais du lundi au vendredi de 19h15 jusqu'à 20h, en rediffusion le lendemain matin de 4h45 jusqu'à 5h30, heure de Kinshasa. Radio Okapi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Vous êtes en train de suivre Éco du développement sur Radio Okapi, votre magazine qui traite les questions de l'environnement et du développement durable, qui s'intéresse au lancement du projet de la foresterie communautaire en faveur des peuples autochtones de la RDC sur l'appui financier du gouvernement suédois en collaboration avec les ministères de l'Environnement et Développement Durable. Le projet d'appui à la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones de la RDC a pour but de contribuer à la sécurisation des droits fonciers des peuples autochtones, souligne Théophile Gata. Nous rappelons qu'il est le directeur exécutif du Centre d'appui à la gestion des forêts tropicales.
Le projet PASDEF s'inscrit dans l'effort fourni par le pays à faire participer à travers le processus de foresterie communautaire les communautés locales et peuples autochtones à la gestion durable des forêts dans le but d'améliorer leurs conditions de vie en milieu rural par l'affermissement de leurs droits d'accès à la terre et aux ressources. Monsieur le secrétaire général, distingués invités, l'objet du projet PASDEF est de contribuer à la sécurisation des droits fonciers forestiers, à la réduction de la pauvreté et à la promotion de la gestion durable des forêts, de communautés locales et de femmes en RDC. Spécifiquement, il s'agira d'assurer la sécurisation et la reconnaissance de droits fonciers forestiers pour une superficie de 300 000 hectares de la forêt congolaise sous gestion des communautés locales et peuples autochtones et d'influencer les politiques et la loi, les lois nationales pour qu'ils prennent en compte le droit des communautés locales et peuples autochtones et de femmes. Le projet PASDEF, qui est coordonné par le Centre d'appui à la gestion durable des forêts tropicales, est mis en œuvre sur le terrain dans 5 provinces, à savoir le Kwilu, dans le territoire de Bulungu, le Kwango, dans le territoire de Kenge, le Congo central, dans le territoire de Tchela, le Maïndombe, dans le territoire de Nyoki, et le Sud-Ubangi, dans le territoire de Libenge, par un consortium dynamique de 5 partenaires ayant une expérience sur la thématique. La mise en œuvre sur terrain est rendue possible par une subvention de 2 ans accordée par la Tenure Facility, une organisation basée à Stockholm, en Suède, et qui accorde ce genre d'appui pour garantir les droits des communautés locales et peuples autochtones sur leurs terres et leurs forêts, renforçant ainsi les communautés et réduisant le changement climatique mondial et la pauvreté dans les zones forestières du monde. Monsieur le secrétaire général, distingués invités, la phase opérationnelle de la subvention est divisée en 2 phases distinctes, la phase de préparation et la phase de mise en œuvre. Le but de la phase de préparatoire est de convenir de l'approche méthodologique, des principes et de poursuivre la formation du personnel et des responsables gouvernementaux au niveau local dans le site du projet avec l'appui de la division de la foresterie communautaire. La formation de base des membres des différentes équipes exécutives du projet qui suivra la présente cérémonie s'inscrit donc comme activité majeure de cette phase préparatoire.
Nous devons souligner que plusieurs réformes sont en cours d'élaboration dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire, commente Patrick Saïdi. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la DGPA.
C'est notamment dans les secteurs fonciers, parce qu'il y a toute une réforme qui est en cours, qui vise à mettre en place une politique et une loi. C'est aussi notamment dans le secteur de l'aménagement du territoire, il y a aussi une réforme en cours qui vise à mettre en place la politique de l'aménagement du territoire, la loi de l'aménagement du territoire, mais aussi les différents schémas d'aménagement du territoire en termes d'allocation des espaces, donc des allocations stratégiques. Mais aussi, nous discutons effectivement de l'avenir des peuples autochtones, pygmées, qui vivent dans ces espaces forestiers, parce que nous parlons déjà depuis le début de la foresterie communautaire, et le gouvernement s'est engagé dans l'élaboration de la politique nationale forestière. Et ce que nous cherchons d'ailleurs, qui est capital, dans le secteur par exemple forestier, c'est de voir comment le gouvernement arrive à reconnaître le peuple autochtone pygmée comme une entité. Parce que dans les codes forestiers actuels, le gouvernement reconnaît les communautés locales. Parce que pour nous, communauté locale, c'est un concept vaste.
Polysémique, c'est trop général.
C'est trop général. Et dans lequel les peuples autochtones pygmées sont dilués.
Ben pourquoi voulez-vous que l'aspect peuple autochtone soit mis en relief?
Donc l'aspect peuple autochtone doit être mis en relief parce que c'est d'abord un groupe avec une culture à part, avec ses propres traditions et coutumes, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour qu'aujourd'hui, intégrer les peuples autochtones ou les prendre en compte dans une dynamique de développement national, c'est arriver à les prendre en compte avec leur culture et leur identité.
Patrick Saïdi, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la DGPA, mais en même temps aussi, on est dans l'élan de la mondialisation. Les peuples autochtones ne doivent pas rester en marge de cette évolution de la société.
Et effectivement, nous parlons exactement la même chose. Pour qu'ils ne restent pas en marge de la société dans cette mondialisation, c'est au fait les prendre avec leur identité. Parce que c'est qui fait qu'ils soient mis à l'écart, par contre, c'est tout simplement parce qu'ils sont catalogués pygmées. Donc, c'est le fait d'être catalogué pygmée, il devient sujet de dérégés, sujet de discrimination et marginalisation.
Et ça pose problème pour l'intégration.
Mais les jours qu'on comprend que l'homme pygmée a sa culture et que sa culture est salitaire pour le développement, effectivement, mais aussi pour le renforcement de la diversité culturelle de notre pays, à ces jours-là, nous irons tous vers cette mondialisation, malgré nos différences.
Pensez-vous que les peuples autochtones ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques?
Je dirais qu'ils sont même au centre de la LITS, parce qu'aujourd'hui, les forêts congolaises qui font partie du bassin du Congo sont considérées comme les deuxièmes poumons mondiaux. Et nous sommes tous conscients que ces forêts sont encore là, parce qu'il y a tout simplement une communauté qui vit et qui a vécu dans ces forêts en communion avec ces arbres-là. Donc, une communauté qui ne dépend que de ces arbres-là. Or qu'aujourd'hui, si nous regardons les impacts vers le secteur forestier, c'est tout simplement les activités qui viennent de l'extérieur, qu'on appelle anthropiques, soit c'est des activités commerciales. Mais en reconnaissant le rôle de pygmée, en lui laissant continuer à gérer ces espaces-là, c'est tout un pays qui gagne.
Quelle est alors la réglementation régissant la foresterie communautaire en RDC? Fifi Lukunde, directeur à la direction de la foresterie communautaire au ministère de l'Environnement et Développement Durable, nous donne des précisions.
Depuis la signature et la promulgation de la loi 011/2002 portant code forestier, le décret 14/018 fixant les modalités d'attribution de concessions forestières aux communautés locales et l'arrêté 025 portant dispositions spécifiques relatives à la gestion et à l'exploitation de la concession forestière des communautés locales, les efforts ont été consentis par plusieurs partenaires en vue de soutenir les secrétariats généraux, c'est-à-dire la direction de la gestion forestière à travers la division forestière communautaire, dans le développement ou la mise en œuvre du processus. La valorisation de ces efforts s'est visiblement matérialisée à ces jours, car 70 concessions forestières de communautés locales sont octroyées, et dans cette province, la République démocratique du Congo, avec une superficie totale de 1 362 418 hectares de forêts déjà octroyées donc sous la gestion communautaire et 27 initiatives ayant une superficie de 595 209 hectares en attente des signatures des arrêtés d'attribution, ce qui totalisera une superficie de 1 957 624 hectares. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous osons croire que ce projet qui vise la sécurisation et la reconnaissance des droits fonciers des communautés locales et peuples autochtones avec une superficie. Ce projet qui a fait des projections pour avoir 300 000 hectares de forêts sous la gestion communautaire ne sera pas loin d'atteindre les 2 400 000 hectares prévus sous la gestion communautaire en République démocratique du Congo, c'est-à-dire dans la vision du PNFM 2 à l'horizon 2020.
La sécurisation des espaces fonciers des peuples autochtones permettra à ces derniers de vivre en harmonie avec leur espace vital, conclut Patrick Saïdi. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur de la DGPA.
Donc ce qui doit être fait prioritairement, d'ailleurs on félicite, nous remercions beaucoup le gouvernement suédois pour cette initiative, parce que l'un des problèmes principaux des peuples autochtones, comme nous le disons, c'est d'abord la terre, parce que c'est la terre qui définit l'identité et le bien-être. Donc si on arrive à sécuriser les espaces de vie des autochtones grâce à la foresterie communautaire, donc par la suite c'est la mise en place, parce qu'il y a un certain nombre d'outils de gestion. D'abord c'est les plans simples de gestion de ces espaces-là, pour qu'ils sachent comment ils vont travailler en cohérence avec les espaces, parce que nous avons des fois des espaces réservés pour des sites sacrés, nous avons des espaces qu'ils peuvent allouer à l'exploitation agricole, nous avons des espaces qu'ils peuvent préserver en titre de conservation, parce que nous trouvons une forte biodiversité peut-être dans ces zones-là. Donc au-delà de ces plans simples de gestion, c'est maintenant l'accompagner avec un plan de développement local. Parce que l'objectif, au fait, de la sécurisation de ces espaces, c'est impulser le développement local. C'est améliorer les conditions de vie, mais aussi améliorer l'accès aux services sociaux des bases.
Tels que, par exemple,
l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable, qui constitue l'un des problèmes majeurs dans le campement pygmée, qui est même à la base de beaucoup de maladies hydriques. C'est aussi améliorer, par exemple, l'accès à la justice, qui est aussi un élément capital pour mettre fin à tous ces aspects de discrimination, améliorer l'accès à la santé, parce que nous trouvons que aussi la discrimination à l'égard des peuples autochtones pygmées, c'est aussi l'accès à la santé. On ne les accepte pas facilement dans des zones de santé, dans les centres et les postes de santé que nous trouvons dans toutes ces zones-là. Et imaginez-vous, pendant cette période de pandémie, vous êtes touché et qu'on ne vous reçoit pas. Vous voyez ce que ça peut créer en termes de traumatisme par rapport à ces peuples autochtones-là. Donc l'idée avec la foresterie, c'est sécuriser la terre, sécuriser les ressources, sécuriser l'identité et ce mode de vie culturel qui est basé à leur coutume, mais aussi améliorer les conditions de vie avec les plans locaux de développement.
C'est par ici que nous clôturons les magazines consacrés au lancement du programme de sécurisation de l'espace foncier des peuples autochtones financé par les gouvernements suédois en collaboration avec les ministères de l'Environnement et Développement Durable que vous a présenté Tati Mapoku. Polydor Basunga était à la prise des sons sous la supervision et la coordination de Jean-Marc Matouaki. Retrouvons-nous pour un nouveau numéro des Codes du Développement le jeudi prochain. À bientôt.